Parle à 14h. Yeah!
Salut!
Bonne soirée.
Bye, là!
Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Oh. Le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
On se considère chanceux de l'avoir encore une fois ce soir, puisque c'est un gars qui est un touche-à-tout. Il a un gros horaire, puis il se rend disponible une fois de temps en temps pour nous jaser pour le podcast de Marceau le soir. C'est un plaisir de l'avoir. Il est docteur en droit, c'est un avocat, c'est un chroniqueur aussi. C'est l'animateur des capsules Make Fascist Great Again. Il pensait en faire 4-5, puis finalement, il est rendu à 5 millions de capsules Make Fascist Great Again. C'est Frédéric Bérard. Salut, Fred!
Salut, mon ami. Ça fait plaisir de te revoir.
Ouais, ben c'est ça, là. Là, je le sais que Donald Trump, c'est pas ton préféré, mais il faudrait que tu arrêtes de parler de lui une fois de temps en temps, là. Tu vas commencer par faire de l'argent sur son dos.
Ben écoute, j'ai hâte de voir la couleur du premier chèque. Je trouve que c'est bien du trouble, puis c'est bien du gossage pour être bénévole. Tu pourrais me faire au moins une couple de piastres de temps en temps, je dirais pas non. Mais non, écoute, je blague pas, hein. Je pensais en faire, je sais pas, là, 15-20 capsules, là, les gros morceaux.
Ouais.
Allez, je vais faire ça aux 3-4 jours, puis là, il sortait des trucs. Là, je vois, OK, faut que je suive le jeu un peu, là, sinon aux 3-4 jours, je vais être en retard. Fait que commencer à faire ça au quotidien. Puis non, j'approche, je ne sais plus. Là, je pense que tu as 291, 12 ou 280. En tout cas, bref, on approche le 300. Puis là, je disais, écoute, c'est beaucoup, là.
Ouais.
Puis chaque capsule a une petite histoire en soi. Évidemment, il y a des trucs qui reviennent parfois, genre, bon, développement dans telle affaire.
Oui.
Mais ça reste des trucs relativement autonome, tu sais, quand tu y penses, ça fait beaucoup de make fascism, je trouve, là.
Ouais, ben je trouve ça cool parce que autant les gens qui t'aiment et qui t'adorent, autant les gens qui te détestent l'écoutent. Fait que c'est simple que tu fais une belle job. Comment t'as eu l'idée de faire ces capsules-là, Make Fascism Great Again?
Ben regarde, c'est bien, bien simple. J'ai idée d'écrire un livre sur le fascisme, ce qui se passe aux États-Unis. Mais d'ailleurs, tu me permettras la petite blog si c'est pas trop
indélicat,
mais j'ai... Mon prochain livre sort le 13 janvier et chez Somme Toute. Ça s'appelle « Au chevet de la démocratie ». C'est une espèce de wrap-up des 10 dernières années, ce qui s'est passé, ce qui nous a amenés là, aux États-Unis, évidemment. Les violations de l'État de droit ici au Québec, au Canada, évidemment. Donc ça, c'était déjà prévu. Ça, c'était une espèce de ramassis de mes écrits, si tu veux. Mais le prochain, donc, que je voulais faire, c'est sur les États-Unis de Trump exclusivement. Je me suis dit, je vais... essayer de faire la première année de Trump, et je sais comment que c'est, là, parce que ça fait quand même un bout de temps que je fais ça. T'as beau dire, hey, ça, je vais m'en rappeler, c'est gros, ça, je vais m'en rappeler, tu sais, deux semaines après, une semaine après, trois jours après, c'est à peine si tu t'en souviens un peu. Alors, je me suis dit, plutôt que d'écrire ça dans mon petit calepin tout croche, parce que je suis le gars le plus désorganisé du monde, pas le calepin, pas le ci, pas le ça, j'ai dit, je vais mettre ça sur le web, puis je vais tenir mes archives avec ça, puis je vais énumérer 1, 2, 3. Au début, tu n'as même pas numéroté, en fait, mais après ça, je me suis dit, je vais essayer d'avoir une espèce de suite logique. Puis quand ce sera le temps, je ramasserai tout ça, j'engagerai un étudiant pour faire l'espèce de summum de tout ça, puis j'écrirai à partir de ça. Puis là, en mettant ça sur le web, ça a commencé. Puis honnêtement, je te jure, là, je faisais pas ça pour personne d'autre que moi. Mais je me suis dit, tu sais, si ça peut intéresser deux pellés puis trois tondus une fois de temps en temps, ben tu sais, ça sera ça. Puis ça s'est mis à marcher quand même, ben en fait, très vite, à vrai dire.
Ouais.
J'ai comme, OK, que c'est ça, cette affaire-là. Je pensais pas qu'il y avait, pour te dire, je pensais pas qu'il y avait un appétit pour ce genre d'affaires-là, pas du tout. Puis les gens ont fini par, tu sais, commenter, m'écrire, m'envoyer d'autres cossins. Puis là, je me suis dit, bon, ben clairement, il y a une espèce de manque à gagner, là, à côté. Parce que j'essaie de faire un petit peu de pédagogie aussi, pas trop, là. Mais j'essaie d'expliquer un peu c'est quoi un état de droit, puis pourquoi ça en serait une violation. Tu l'as vu, des petites capsules d'une minute, deux minutes, on tient ça bien serré. Fait que j'ai pas le temps de dire grand-chose de très, très développé. Mais voilà, fait que c'est ça, on est rendu à 300. Là, je te cacherai pas que je commence un peu à me dire, coudonc, pense que je commence à être écœuré, là. J'ai peut-être fait le tour.
Mais est-ce qu'on peut oser imaginer si c'est Joe Biden qui repasse, là, à quel point dans l'actualité, au niveau international, tout ce qui touche les États-Unis, il n'y aurait pas grand-chose à dire, là, pour 4 ans, là?
Ben, tu vois, c'est bien que tu dises ça parce que je me suis passé la réflexion suivante. Évidemment qu'avec Donald, tout est dans le tapis, hein. On est toujours dans l'excès, on est toujours dans le dérapage, dans le drame. Puis je ne cacherai pas que moi-même, j'embarque là-dedans sans problème, là, dans l'optique où je pense que c'est important de dénoncer tout ça. Mais ça m'a fait réaliser aussi, il se passe pas mal de... C'est un bout de temps que je le sais quand même, là, mais... Il se passe des trucs graves ailleurs qu'aux États-Unis, des trucs qui n'ont peut-être pas la même ampleur, mais qui méritent d'être dénoncés. Je te donne un exemple. Le gouvernement de Mark Carney, là, est en train de nous en passer, mon vieux, là, une vite puis un autre, mais l'attention est tellement sur Donald que, bof, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, le projet de loi, le C2, là, où on permet à des policiers, n'importe quelle force policière fédérale, de demander à Google, Facebook, à tout fournisseur de services, donc pas juste des médias sociaux, pas juste des médias tout court, ils peuvent aller voir ta municipalité, ton hôpital, qui tu veux, ton garage, pour obtenir des informations personnelles sur toi, sans mandat judiciaire préalable. Imagines-tu? Je dis, mais quel genre de société-là? Tu vas me dire, ouais, mais Google, Facebook ont déjà mes affaires. OK, oui, je comprends, mais... Tu sais, c'est parce que je suis pas tout à fait à l'aise. Moi, que mon garage ait donné mon numéro de carte de crédit à GRC, il me semble que, tu sais, ça va. Puis, tu vois, ça, c'est deux, ça va. Ça passe comme une lettre à la poste.
Ouais.
Probablement que ça va être approuvé,
Quoi
adopté comme si
que
rien n'était.
ça a été très couvert sur cette antenne-ci, là, on en a parlé
Ouais.
régulièrement, mais tu as raison. T'sais, Donald Trump fait tellement de bruit, les négociations entre les États-Unis et le Canada font tellement de bruit, stressent beaucoup de monde, stressent les gens qui font affaire avec les États-Unis. C'est une situation d'incertitude. Là, tu entends pour parler du projet de loi C2, tu dis, regarde-moi, j'en ai assez, là, je vais me concentrer sur mes affaires. Fait que tu as raison, ça
Exact.
fait tellement de bruit qu'on peut s'en faire passer par le gouvernement Carney. Surtout que de ce temps-ci, il semble piger dans le cahier de jeu de Pierre Poilievre. C'est assez
Écoute,
particulier.
non, mais
Normalement,
c'est...
tu fais une campagne électorale de centre-droit économique pour finalement gouverner à gauche. Puis là, ben, dans le cas de Carney, il a fait une campagne à gauche pour gouverner de centre-droit. C'est un peu capoté.
Moi, je te pose la question, là. Mettons que c'était Pierre Poilievre qui avait été élu en avril. Est-ce que ça serait bien, bien, bien différent de ce qu'on voit là?
Je sais pas, hein, t'sais,
Dans le style, oui.
là, on a deux combats, on aurait eu un combat de coq, parce que c'est deux coqs, là, Pierre Poilievre puis Donald Trump. Moi, de voir Mark Carney avec les petites jambes croisées à rire des mauvaises blagues de Donald Trump pendant 2 heures, alors que lui parle 2 minutes, je trouvais qu'on faisait pitié en maudit, là,
On
comme...
fait plouc-plouc. Non, mais excuse-moi, je n'avais pas été précis, mais sur le programme, notamment économique, les libéraux, ils ont arraché à peu près tout ce qui existe, non, dans le playbook, d'un point de vue fiscalité, d'un point de
Oui.
vue environnement.
Ah, ça aurait été peut-être la même affaire.
Évidemment, je caricature, là, mais est-ce que, franchement, ce serait si étonnant d'avoir un copier-coller conservateur pour les 6 premiers mois? Qu'est-ce qu'il a fait de libéral, entre guillemets, Carney, depuis qu'il
Pas
est là?
grand-chose.
Rien. En tout
Non.
cas, si oui, j'ai rien vu passer d'important. Donc, tout ça pour te dire que, tu vois, l'idée, c'est que je pense qu'il faut continuer à dénoncer. Moi, ça fait une dizaine d'années, en fait, que je fais ça, l'espèce de wrap-up que je te dis qui va être publié en janvier. C'était parti d'un premier livre qui s'appelait La fin de l'état de droit, où je dénonçais ces violations-là. Mais là, je réalise qu'il y en a de plus en plus, puis sont de plus en plus importantes. Sur la liberté d'expression, c'est neuf, par exemple, toujours à Ottawa. Ça, c'est une autre histoire. Regarde au Québec le projet de constitution québécoise. Écoute, il y a un article là-dedans, l'article 5, Yannick, c'est pas des maudites farces. Il dit que les organismes publics ou tous ceux qui sont financés par l'État d'une manière ou de l'autre ou qui tirent leur financement d'une loi ne peuvent plus contester la constitutionnalité des lois. C'est quel régime, quel type de régime dans le monde empêche des organisations, des institutions de contester les lois?
North
C'est pas une
Korea,
démocratie.
Russia.
Non, mais c'est incroyable. Puis là, on est là, puis on regarde ça, on se dit, ah ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est plus que ça n'a pas de bon sens. C'est l'antipode même, calvaire, d'une démocratie. Tu peux pas commencer à dire, toi, tu n'as pas le droit de contester. Puis là, c'est pas juste 2-3 de Joe Blow, là. C'est tout ce qui s'appelle municipalité, cégep, université, police, syndicats. Même, tu pourrais penser que c'est des entreprises qui sont visées aussi. Des entreprises qui sont financées par Investissement Québec. C'est bien des fonds publics, ça.
Oui.
Fait que là, au final, il va rester qui? Ben, à peu près personne. Puis là, nous, on va vivre d'une société, mais on va être content. Oh, on ne peut plus contester, mais c'est pas grave, on est heureux, on fait confiance au gouvernement en place. Je dis, voyons donc, il faut que tu aies quand même une espèce de.
Un rapport de
Comment
force.
ben, oui, un rapport de force puis une dynamique. Puis
Ouais.
là, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec la revendication constitutionnelle du groupe en question, évidemment, mais le point, c'est pas ça. On ne te demande pas si tu es d'accord, on te demande s'ils ont le droit de contester. Puis après ça, ben, il se passe justement une espèce de dynamique X qui fait la force d'une démocratie. Tu sais, si tu enlèves, ça je dis aux gens, j'ai une sacrée chance que Trump parle pas français parce que le gouvernement Legault pourrait donner une bonne idée. Tiens, m'adopter ça, moi, une espèce de patente à gosse qui empêche les gens de contester la constitutionnalité de mes dispositions. Je veux dire, vas-tu vraiment vivre dans une société comme ça? Trump serait capable de le faire. Mais nous, au Québec, franchement, on vaut mieux que ça, là. Je peux pas croire qu'on va tomber dans ce panneau-là. Alors, tout ça pour te dire qu'il y a bien des trucs à contester. La loi 2 sur les médecins, on peut bien penser ce qu'on veut, les médecins sont-ils trop gâtés, pas assez gâtés, peu importe. Mais reste que dans cette loi-là, écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils disent aux universités, si vous ne donnez pas la liste de ceux et celles qui pensent peut-être chialer contre notre loi, on va vous couper de votre financement. Je veux dire, mais c'est parce que le recteur d'université, là, c'est pas l'inspecteur Gadget, là. Il y a
Non,
d'autres
ben.
choses à faire que de monter des listes de dissidents, là.
Non.
Qu'est-ce qu'on n'est pas un chien
Il y a
de
des
maoïste?
non-sens, mais au moins on en parle dans les médias. Tu sais, moi, ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, dans cette guerre entre la Coalition Avenir Québec puis les différents groupes de médecins, c'est que le patient semble être oublié. On parle beaucoup trop
Ben oui.
d'argent. J'aurais peut-être mis l'accent sur le bien-être du patient, les listes d'attente qu'on veut diminuer. Comment faire pour diminuer ces listes d'attente-là? Là, c'est une négociation entre un gouvernement qui semble faire la sourde oreille, des médecins qui ne veulent pas perdre leur acquis, mais le patient, lui, est encore oublié. Puis quand on parlait d'une médecine fast-food, si tu compares avec les Ontariens, si tu regardes les chiffres des médecins ontariens puis les listes d'attente du côté de l'Ontario, les médecins ontariens rencontrent plus de patients par jour que les médecins
Ben oui.
au Québec. Puis les listes d'attente sont beaucoup moins longues. Là, il y a des médecins qui vont dire « Oui, mais Yann, c'est pas la même façon de calculer. » Je comprends, mais en bout de ligne, ce que je veux, moi, en tant que contribuable, pas en tant que patient, je suis écœuré d'attendre, ma patience a des limites, là. C'est pour ça qu'on nous appelle les patients. En tant que patient, j'ai hâte que ça se règle, puis j'ai hâte qu'ils trouvent un moyen de faire fonctionner ce système-là qui, il y a de ça quelques années, Fred, on appelait ça un modèle, le modèle québécois en
Ah
santé.
oui.
Un modèle, là, c'est repris ailleurs. Le modèle québécois en
Non.
santé n'a jamais été repris nulle part. Fait qu'à un moment donné, peut-être revenir à la page blanche. Cela dit, je veux revenir à Donald Trump, puisque hier, Trump est revenu dans l'actualité. Dans le secteur de Washington, il y a deux militaires américains de la Garde nationale qui se trouvent aujourd'hui dans un état critique. On craint pour leur vie, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a mentionné. Ils ont été blessés par balle. Il y a énormément de gens de la Garde nationale dans le secteur de Washington, un peu plus de 2000 soldats de la Garde nationale qui sont là. Et Donald Trump, suite à cette fusillade-là, où il y a deux gars de la Garde nationale qui étaient tirés, il a dit « On en rajoute 500 ». J'imagine que les gens de Washington doivent un peu halluciner avec ce qui se passe là.
Ben, ce qui est
T'imagines?
drôle, c'est
3 000 soldats de la garde nationale à Washington, et à ça, t'ajoutes les policiers, t'ajoutes le FBI, t'ajoutes tous les autres services qui sont pour la sécurité du pays. Les gens qui habitent là doivent halluciner sur un méchant temps, là.
Ben, le rendu là, c'est un état policier, là,
Ben oui,
t'sais, ni
exact.
plus ni moins, là, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Puis moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est que les taux de criminalité qu'invoque toujours Trump, hein? Ben, c'est drôle, mais il les invoque uniquement dans les villes démocrates, alors que souvent sont plus élevés dans les villes dites
Républicaine,
républicaines.
ouais.
Donc, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est une vendetta qui est très, très, très partisane, évidemment. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'ils cherchent ce type de confrontation-là. Tu ne veux pas être naïf. Puis là, je le dis avec beaucoup de respect, mais le fait que deux gardes nationales se fassent tirer dessus, je pense pas que ça fasse vraiment de la peine à Donald. Je pense que ça fait plutôt partie du plan, en quelque sorte. Pas évidemment ces individus-là. Je ne te dis pas qu'ils voulaient les sacrifier eux nécessairement, mais ils souhaitent qu'il y ait une confrontation. Ils souhaitent que ça dégénère pour par la suite pouvoir suspendre la Constitution américaine, dire voici, on est dans un état d'insurrection appréhendé. on doit agir, idéalement avant, évidemment, les prochaines élections de 2027, de mi-mandat.
C'est le 4 novembre 2026, ça va être les élections de mi-mandat. Puis il y a 40 républicains qui ne se représenteront pas. Il va y avoir un pouvoir de force qui va être peut-être inversé pour l'ami Donald.
Parce que si au moins il le faisait aussi dans les villes dites républicaines, bon, ça serait déjà un peu spécial, disons-le, mais il y aurait déjà une espèce de justification de certaine crédibilité, peut-être. Puis l'autre affaire aussi qu'il ne faut pas oublier, la Garde nationale n'est pas là pour arrêter le crime, là. Tu sais, si Joe Blow là, sort du dépanneur en ayant volé de la slotch, là, c'est pas la Garde nationale qui va courir après. Fait que la Garde nationale, elle fait quoi? Ben elle est là, puis elle attend que ça pète. Puis hier, ben c'est ça qui est arrivé, puis je le dis encore avec respect. Regarde, mettons juste Portland. Il dit à Portland, là, c'est à feu et à sang.
Non.
Niaise-moi pas, Portland, c'est le plateau Mont-Royal. Là, le monde a des gougounes en fer forgé. Ils jouent aux échecs avec des marguerites dans les oreilles. Là. Je veux dire, niaise-moi pas. Portland, t'as feu et à sang. Écoute, il ne s'est jamais rien passé à Portland là, depuis 200 ans. Là. Je ne sais même pas s'il joue à Sunday Chris.
Mais quel serait l'objectif? Tu es docteur en droit, tu en as vu des vertes et des pommures à grandeur de la planète, tu as voyagé, tu as infiltré Guantanamo, ce que je trouve hallucinant.
As-tu mon livre sur Guantanamo?
Ben oui, je l'ai acheté.
Ah, Colin, j'aurais pu te l'envoyer gratis.
Non, je ne suis pas de même. Moi, j'encourage nos auteurs.
Ben merci pour ton 3$. Fais-toi une bière.
ça me permet de te parler pendant une heure. Fait, je trouve que c'est rentable comme investissement.
Mais
c'est quoi son objectif ultime à Donald Trump de mettre la garde nationale partout? Est-ce que c'est une demande des Américains? Est-ce que c'est une demande de la clientèle des Trumpistes là, qui veulent de plus en plus de policiers autour d'eux?
Ben, écoute, moi, je pense que la réponse est relativement simple. Elle est cynique à l'os, là. Elle est tellement cynique que je pourrais comprendre que plusieurs de tes auditeurs, auditrices, disent, voyons, ils délirent, là. Mais je vois pas d'autres conclusions que celles que je vais t'annoncer là. Vers qui envoyer la garde nationale? À Los Angeles. Newsom, le gouverneur de la Californie, a dit, on n'en veut pas de ça. On veut rien savoir. La mairesse de Los Angeles, même chose. Qu'est-ce qu'elle faisait la garde nationale? Ben, elle surveillait le ICE, ni plus ni moins. Et devant les tribunaux, Trump avait perdu quelques manches aussi. Par la suite, il a gagné, en tout cas, bref. Mais clairement, il avait spoté Los Angeles, qui est la ville peut-être la plus...
À gauche.
Comment je dirais? Ouais, la plus symptomatique de ce qu'il essaie de dénoncer. Il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants hispanophones. Moi, je suis allé voir la série mondiale l'année passée contre les Dodgers, contre les Yankees. Écoute, il y avait un hommage à Fernando Valenzuela avant le premier match. Je blague pas, là, il y a quoi, 60 000 personnes là-dedans, 55 000. Il devait avoir au moins 25, 30, 40 % d'hispanos. Ça chantait en espagnol, ça s'insultait en espagnol. Juan Soto en a eu tous les colibets du monde en espagnol. Je ne cachais pas la moitié, mais bon, bref. Fait que, tu as vraiment le symbole. Et le ICE, à Los Angeles, il fait quoi? Ben, il débarque dans les abribus, il débarque dans les Home Depot. Puis bon, t'es basané un peu, toi, j'ai entendu parler espagnol, puis il les ramasse, tu sais, c'est pas des maudites farces. Après ça, il est allé où? Portland. Je le répète, c'est comme François Legault qui envoie la SQ sur le plateau, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Mais ah, ben, c'est le plateau, t'as feu et à sang, quoi. C'est la petite fille a échappé sa crème glacée, de quoi tu me parles? Après ça, Washington, évidemment. Chicago. Tous des bastions démocrates. Et on a parlé de Baltimore aussi. Donc, qu'est-ce qui peut arriver là? Bien, une espèce de confrontation X. Et moi, je pense très sincèrement qu'il la recherche, cette confrontation, parce que légalement parlant, il n'y a pas de justification à envoyer cette garde-là, de toute évidence. Et puis, si ça se met à péter un peu, bien, il va faire ce que je disais tout à l'heure. État d'insurrection appréhendé. Je crois qu'il cherche un motif pour suspendre la Constitution, s'arroger divers pouvoirs et être capable d'éviter l'élection de mi-mandat qui s'annonce relativement mal pour lui. Peut-être pas la catastrophe que certains pouvaient penser, mais il sortira pas de là gagnant, de toute évidence. Et faut pas que tu oublies aussi que ces grands penseurs, c'est qui? C'est Stephen Miller, t'as encore Bannon par la bande, t'as le Project 25. Tu sais, le Project 25, c'est une manière de rester au pouvoir. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, c'est très, très machiavélique, mais on cristallise les positions, on cherche l'espèce de confrontation, puis après ça, on dit aux Américains, pour répondre à ta question. Regardez, je suis là pour vous défendre. Regarde tous ces spins. J'envoie la garde nationale parce qu'il y a beaucoup trop de criminalité. Il y a beaucoup trop d'itinérants. C'est ce qui sortait en rapport à Washington, si tu te souviens. Mais c'est parce qu'au final, OK, mais fais-le aussi dans les villes républicaines à ce moment-là, ce qu'il ne fait pas, même s'il y a des taux de criminalité plus élevés. Donc, moi, je ne vois pas d'autre chose que ça, sincèrement. Je ne vois pas qu'est-ce qui gagne à faire ça autrement, parce que dans ces villes démocrates-là, tout le monde est fâché ou à peu près. Il n'y a personne qui se sent plus en sécurité.
Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, c'est quoi les contre-pouvoirs aux États-Unis, au Canada, au Québec, quand le gouvernement est peut-être un peu trop dans nos vies? Comment, aux États-Unis, Donald Trump a été assez challengé. Au Canada, je n'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui challenge le gouvernement canadien. Même chose au Québec. Mais commençons par les États-Unis. C'est quoi les contre-pouvoirs pour dire au président, là, vous allez trop loin, ça va à l'encontre de la démocratie, ça va à l'encontre des chartes.
Ben, tu te rappelles peut-être, je vais faire une petite digression, mais mon ami Jacinthe Varel, on pensait pas qu'on deviendrait amis un jour, là, mais on fait les débatteurs ensemble depuis un an maintenant, puis vraiment beaucoup de. Je sais qu'à t'écoute, elle m'en a parlé une fois ou deux. J'ai vraiment beaucoup de fun avec elle, une fille brillante. Honnêtement, là, j'apprends avec cette fille-là, elle est drôle, parfaite. Puis, évidemment, on n'est pas d'accord sur la moitié des affaires, pour ne pas dire 90 %,
90,
mais ça ne change rien au final. Ouais, je dis 90, peut-être plus 98, mais ce n'est pas grave, elle a vraiment tout mon respect. Mais tu sais,
99,5.
ouais, possiblement, ouais. Mais il avait eu un spin, je ne sais plus, avais-tu fait une entrevue à Radio-Canada, un débat, puis elle disait aux États-Unis, les États-Unis ne permettent pas une dictature, quelque chose comme ça. Puis là, évidemment, la gauche, ma gang, s'était gâtée sur elle. Écoute, ça circule encore, cette affaire-là. Puis, je ne suis pas gêné de te le dire parce que j'en parle. Puis, j'ai pris un peu sa défense avec la gauche, je peux dire ça comme ça, en disant, ben, elle dit pas que c'est impossible d'avoir une dictature, ce qu'elle a voulu dire. Puis, ça va vite dans les débats, là, tu le sais, là, on peut en échapper une. Ce qu'elle a voulu dire très clairement, c'est que les États-Unis ont mis en place des contre-pouvoirs pour éviter justement une forme de dictature, une forme de régime autoritaire. Et là-dessus, en théorie, elle a absolument raison. Par exemple, aux États-Unis, le président a beaucoup moins de pouvoir à l'interne que le premier ministre canadien. Le président américain à l'interne a beaucoup moins de pouvoir que François Legault au Québec, toutes choses étant égales, évidemment, on se comprend bien, dans l'optique qu'on a divisé vraiment les pouvoirs, un peu comme le souhaitait John Locke en 1600. Keck, même chose pour Montesquieu. Après, John Locke, ceux que ça intéresse, c'est Second Treaties of Government, qui est le classique. Montesquieu a repris les travaux de Locke pour dire il faut séparer les pouvoirs. Puis tu as un gars comme Lord Acton, en 1800 quelque chose, qui est sorti après, ben, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, c'est pour ça qu'il faut diviser les trucs. Et aux États-Unis, c'est ça qu'ils ont fait. Hein, tu as la Chambre des représentants, tu as le Sénat qui représente les régions, mais sénateur américain a énormément de pouvoir versus un sénateur ici qui, disons-le franchement, fait du rubber stamping. Et puis encore là, c'est beau. Donc, tout ça pour te dire que le président américain, oui, a un veto ici et là, oui, il a certains pouvoirs, mais si tu n'as pas les deux chambres ou si tu en manques une des deux, tu peux te faire écœurer longtemps, tu sais, par-en à Obama, puis par-en à plein d'autres. Donc, ça pour dire que le contrepoids aux États-Unis, il est d'un point de vue législatif versus exécutif, mais il est aussi versus le pouvoir judiciaire. Là où il y a un enjeu, c'est que la Cour suprême américaine, disons-le sans se compter de pipe, a été pactée majoritairement par la gang de Trump, ce qui fait en sorte qu'ils rendent des décisions qui sont souvent farfelus, là, tu sais, sur la question de l'immunité présidentielle, même aux criminels. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Si la Cour suprême s'était tenue debout, légalement parlant, là, je ne te parle pas, on peut penser ce qu'on veut là, de Trump et compagnie, mais légalement parlant, Trump n'aurait jamais pu se présenter, je ne dis pas dû, là, pu se présenter aux dernières élections présidentielles parce qu'il avait été condamné, parce qu'il était jusqu'aux oreilles, ça le rendait inéligible. La Cour a trouvé une manière de. Écoute, le gars, il était accusé d'avoir fomenté une sédition contre le Capitole, qui est la maison du peuple, là, aux criminels. Là. Il y avait 91 chefs d'accusation à travers le popotin. Ils ont trouvé une manière de déficeler ça pour lui donner une chance de se présenter. Puis par la suite, ben, une fois qu'il a été élu, évidemment, il n'y a plus rien qui tient. Au Canada, ça n'arriverait pas, ça, à l'heure actuelle. Et là, je reviens en sol canadien. On n'a pas cette espèce de respect pour la séparation des pouvoirs, Yannick, comme ils l'ont aux États-Unis. sais, ici, là, quand je parlais de le logo Carney versus Trump, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, disent, voyons, il est tombé sa tête, mais pensez-y, François Legault, avec ses 91 députés, qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut?
Rien.
Personne. Personne. Le Parti québécois peut chialer, Éric Duhaime peut chialer de l'extérieur de
Ben,
l'Assemblée
il
nationale.
y a les syndicats qui peuvent chialer.
Les syndicats,
Les
mais là,
médecins.
tu vois, avec le projet de loi de constitution québécoise pour la réforme Boulay, c'est
Ouais.
écrit à toi, syndicat, ferme ta gueule, en gros, puis tu n'as plus le droit de contester des lois. Tu sais, c'est quand même pas pire. Et là, il reste qui? Il reste. Non, mais sérieux, l'article 5 du projet de constitution québécoise, les organismes publics, on en parlait, ils ne peuvent plus contester. Oui, mais c'est ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. En tout cas,
Ça, c'est
fait qu'il
celle-là qui a
reste
été,
qui?
ça, c'est celle-là qui a été écrite par Simon-Jolin Barrette, pas celle-là de Paul Saint-Pierre Plamondon, on pourrait être certain, là.
Non, moi,
C'est ça.
je vous dirais ceci. Tout ce qui écrit Simon Jolin Barrette, méfiez-vous. Moi, ce gars-là m'a donné du stock pour mes examens à l'université. T'as aucune idée. C'est déjà arrivé que je prenne des affaires de Jolin Barrette, puis c'était ça l'examen. Discuter. Puis je te jure, les étudiants de première année, là, avaient des sacrées bonnes notes juste à soulever tous les problèmes, les enjeux d'inconstitutionnalité des lois ou des projets de loi de Jolin Barrette. C'est spectaculaire. Ça, pour te dire quoi, il reste au Québec, comme on a aux États-Unis, puis du Québec jusqu'au Canada aussi, dans ce cas-ci, la question du pouvoir des tribunaux. Il y a un enjeu qui est embêtant, par contre, c'est qu'en matière de charte, en matière de droits et libertés, tu sais, tu parlais, par exemple, par rapport à l'État, bien, malgré le fait que le premier ministre est tout-puissant au Québec et que le premier ministre canadien est tout-puissant à Ottawa, en plus de ça, ils ont la possibilité d'invoquer les dispositions dérogatoires, que ce soit dans la charte canadienne ou dans la charte québécoise, pour suspendre à peu près presque la totalité des droits fondamentaux en claquant des doigts. Fait que toi, t'es François Legault, 91 députés, tu veux faire adopter peu importe quelle loi, la Constitution québécoise, par exemple, tu penses qu'il y a un enjeu sur la charte, pas de problème, snap, dérogatoire, merci, c'est voté au Parlement, merci, bonsoir. Demain matin, à Ottawa, un gouvernement X voudrait retirer le droit à l'avortement, il pourrait le faire en utilisant la dérogatoire, suspendre l'article 7 qui protège le droit à la vie, sécurité et à la liberté. Et là, à ce moment-là, si tu suspends la dérogatoire, si tu suspends les droits fondamentaux par la dérogatoire, ben il n'en reste plus de contre-pouvoir parce que les tribunaux, à l'heure actuelle, ne peuvent pas se prononcer sur la violation ou sur la suspension. Alors, laisse faire peut-être l'avortement, laisse faire Jolin Barrette. Je te donne un autre exemple. Le pouvoir de surveillance dont on parlait tout à l'heure dans ces deux. Le fédéral n'a pas ajouté la dérogatoire jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, le fédéral ne l'a jamais fait. Mais s'il décidait de le faire, ben à ce moment-ci, selon l'état du droit, là, en 2025, il n'y aurait absolument aucun contre-pouvoir pour déficeler cette mesure-là. Si demain matin, le gouvernement Carney adopte une loi disant « Je permets aux forces policières fédérales de débarquer dans n'importe quel domicile, peu importe le motif, et je leur accorde l'immunité parfaite, tant d'un point de vue civil que criminel, comme Bolsonaro avait fait au Brésil. J'invoque la dérogatoire, ciao, bye, merci puis bonsoir, il n'y a rien qui va se passer. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'un jour, quand le gouvernement Carney va se faire botter le derrière par la population, bien là, il y aura un prochain gouvernement qui décidera s'il retire ou non la dérogatoire. Et pour ceux qui s'intéressent, c'est un peu technique, mais je finis avec ça. Cette même dérogatoire-là, elle peut s'appliquer pour une période de 5 ans dans le cas de la Charte canadienne, mais elle est renouvelable. Donc, si après 5 ans, elle n'est pas renouvelée, elle tombe. Donc, là, vous pouvez recontester ou contester la constitutionnalité de la mesure. Puis sinon, c'est un autre gouvernement qui dit, ben moi, je l'aime bien, moi, cette mesure-là, et réadopte la dérogatoire, ben merci, bonsoir, on est cuit encore pendant un autre 5 ans minimum. Ce
Incroyable.
qui t'oppose aux États-Unis, si je finis l'espèce de
Ouais.
petite comparaison, donne une dérogatoire à Donald Trump, là, puis ça sera pas beau. Nous, ici, on est chanceux, hein, ça c'est toujours. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec l'usage de la dérogatoire, je trouve que c'est très dangereux, mais il n'y a pas eu de dérive à la Trump. Mais il suffit qu'on ait un mini-Trump au Canada avec la dérogatoire, ciao, bye.
Ouais. Puis il y a autre chose qui se passe aux États-Unis. Là, je fais un peu de coq à l'âne, là, mais tu viens de m'allumer sur quelque chose. C'est un sujet que j'ai abordé il y a de ça peut-être 2 semaines avec mon équipe ou 3, parce qu'il y en a de plus en plus des bateaux qui partent du Venezuela. Puis
Oui.
ben, il y a une flotte américaine là, qui est aux aguets, qui est très près du Venezuela, sur les côtes. Puis à chaque fois que le bateau part, ben, il décide de peser sur Enter. Il y a un missile qui part, puis il détruit le bateau. Je trouve ça particulier comme façon de faire. Est-ce que du côté du clan Trump, on dit ben on lutte contre la drogue, puis c'est très dissuasif de la façon dont on le fait. Ah. Mais moi, je sais pas. Tu sais, le capitaine de bateau, il est-tu coupable ou il l'est pas? Tu sais, il s'est-tu fait enlever, puis lui, son bateau, puis il est obligé d'embarquer de la drogue, puis destination aux États-Unis. Les gens qui étaient sur le bateau, y avait-tu des gens qui étaient innocents, qui n'étaient pas au courant en étant sur ce bateau-là, qui avait de la dope? C'est une manière très particulière de faire. Puis là, ben, du côté du Venezuela, on dit « Ah, ben les Américains veulent nous envahir. » Ça m'intéresse pas tant, ce côté-là. Mais au niveau du droit, là, détruire un bateau sous la base de suspicion, sans qu'il y ait de comparution devant un juge, je trouve ça dangereux. C'est le genre de choses qu'on va avoir dans les prochaines années puis qui ne créera pas tant de remous que ça dans l'actualité?
Écoute, tu vois, moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que j'essaie de dire, c'est ça que j'essaie de dénoncer. Il faut dénoncer le fasciste quand il se pointe le bout du nez, pas quand il va être trop tard. Puis c'est là-dessus, souvent, que j'ai des désaccords avec des amis dont je respecte l'intelligence. Tout. Ils disent « Ah, ouais, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. » Tu sais, le syndrome du « Ah, c'est pas si pire », là, moi, c'est assez rare que quand ce syndrome-là s'installe, c'est assez rare que ça finisse bien. Quand tu dis c'est pas si pire, moi, ça fait 10 ans que je dis que ça va mal finir. Le livre s'appelait La fin de l'état de droit en 2014. Je devais commencer à être stressé un peu. Puis tout le temps, ah, pas si pire, pas si pire. Puis c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était pas si pire. Puis des fois, j'avais l'air un peu sans dessin, à m'énerver pour pas grand-chose. Mais c'est parce que tu additionnes ces affaires-là. Puis là, tu crées une nouvelle culture. Hein, il y a plusieurs Américains qui trouvent ça bien correct de tirer des bateaux comme ça. Là.
Mais ça dépend comment l'histoire est racontée, Fred.
Si voilà, tu me dis que Donald, il est excellent.
Si tu me dis que c'est des tueurs sanguinaires qui s'en viennent vers le Canada, c'est rempli de drogue, puis ils sont armés, puis tu me dis que François Legault a dit « ben tiens, on pèse sur le piton, merci, bonsoir ». Comme l'effet de proximité fait en sorte que, bon, c'est mon premier ministre, il veut nous protéger, ils ont décidé de les tirer, puis garde, les autres, ils seront avertis. Si vous approchez des côtes québécoises, il va vous arriver quelque chose. Fait que là, je trouve ça pertinent. Mais si tu regardes ça d'un point de vue plus large, là, tu disais un peu, c'est parce qu'il faut intercepter ces bateaux-là. Il faut savoir qui est sur ce bateau-là.
Ben, tu sais, c'est une règle. Moi, je suis vraiment content que tu l'amènes, ça, parce que c'est une règle de base dans un état de droit. Tu n'as pas le droit de tirer du monde, à moins qu'il y ait une urgence. Mais ce que Trump avait dit, ils ont au moins. Parce que là, il n'en a pas tiré juste un. Là. Ah,
il a
tiré
presque rendu une vingtaine.
12 bateaux. Combien?
On est presque rendu à une vingtaine.
En vingtaine, bon, tu vois, mes chiffres, c'est vrai, je n'ai parlé à la radio, ça fait 2-3 semaines, il était 11 ou 12. Et là, c'est parce que, puis, tant qu'à moi, un, c'est trop, là. Mais la question, c'est, dans un état de droit, est-ce qu'il faut ou non faire un procès à quelqu'un? La réponse, c'est oui. Là, vous les voyez, vous ne pourrez pas croire.